Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast où l'on vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les êtres humains et les organisations. On pourrait même d'ailleurs recentrer ce sujet sur les grands salons de la tech que Lionel et moi parcourons tout au long de l'année, et le premier en date de la rentrée estivale, il s'agit tout simplement de l'IFA de Berlin 2023 qui se termine aujourd'hui. Bonjour Lionel.
Salut Mathieu, salut à toutes, salut à tous.
Sujet
l'IFA de Berlin.
Parler de l'IFA de Berlin, grand sujet, hein, parce que ça a occupé la toile depuis la fin de semaine dernière, avec une présence française remarquée. Et l'IFA de Berlin, on ne le sait pas toujours, il faut toujours rappeler, on le rappelle tous les ans d'ailleurs, ce n'est pas, le CES en tout cas n'est pas le plus vieux salon de la tech, puisqu'il s'agit de l'IFA.
Exactement, 1924, hein, la création. Et évidemment, comme on l'avait remarqué l'année dernière, l'IFA qui est au cœur de Berlin, au Metz, en termes de parc exposition, avec un nombre considérable de halls, et qui est un salon grand public, hein, ouvert au grand public, à l'opposé du CES, qui est un salon professionnel, qui est dit en termes de dimension plus grand, mais en termes de population, une population internationale plutôt très très professionnelle, avec les exposants, les visiteurs, les journalistes. Là, il est ouvert au public, les chaînes de télé sont là. C'est vraiment la grand-messe, c'est le cas de le dire, si on veut faire une expression à la française. La seule grosse différence que l'on a pour nous, petits Français, c'est que, il y a encore quelques années, on atterrissait sur l'ancien aéroport qui est relativement central, puisque hérité du fameux mur. Et depuis l'ouverture du Willy Brandt, il faut faire 40 minutes de voiture ou de transport en commun pour pouvoir entrer. Ça, c'est pas très cool, quoi. Voilà.
Nous aurions espéré qu'il y ait encore 10 années de retard sur les 10 années déjà cumulées de cette livraison d'aéroport qui, effectivement, nous rallonge un peu. Tu le précisais, il s'agit d'un festival. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scolaires. Il y a beaucoup de personnes qui viennent tout simplement pour visiter un peu, comme on dirait, à la Foire de Paris. Ou même à Vivatech dans le jour public pour chez nous. Et c'est vrai que c'est un salon dans lequel il y a une énergie qui est absolument énorme, dans lequel il y a beaucoup de scolaires qui viennent avec leurs profs, qui échangent, qui discutent, qui regardent, surtout dans la zone tech, manga, connecté, tube à néon et autres ordinateurs qui bougent de partout. Et effectivement, c'est un lieu de rassemblement qui mixe autant les professionnels que les perso. Alors même s'il y a des jours qui sont plutôt dédiés pro, et qui vont effectivement animer plutôt la communauté de l'innovation au sens large. C'est le dernier salon, il faut le rappeler aussi, du cycle de veille que nous menons, puisqu'à l'IFA de Berlin, on va principalement retrouver des produits connectés ou des produits intelligents en fin de cycle, c'est-à-dire pré-industrialisation ou industrialisée pour la fin de l'année. Donc on est le plus proche de ce que l'on pourrait appeler le go-to-market. Ce que l'on a pu voir, et c'est très intéressant puisque tu parleras peut-être, on parlerait d'Energy Square, nous avons vu il y a quelques années au CES de Las Vegas à l'état de recherche, puisqu'ils étaient avec Mint Telecom, et maintenant on est 3 ans, 4 ans après, et ils sont là, industrialisés. On parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on retient de ce grand salon de la tech allemande?
C'est très difficile parce que ça reste un salon tech électronique. L'électronique sous toutes ses formes, de l'électroménager à la télévision. Ce que l'on retient surtout à chaque fois, à chaque stand, c'est la même question qui revient. À quel moment ce produit sera disponible? Et là, on vous annonce entre 15 jours et 2 mois, donc on est vraiment en go-to-market, et à quel prix. Mais sinon, si on veut retenir des très très grandes lignes, on dira que, on en parlera peut-être un petit peu, même si c'est pas notre créneau fétiche, mais les télés, les écrans, puisque je crois qu'on arrive à un écran cette année présenté de 98 pouces, faites le calcul, un pouce c'est 2 cm et demi, donc ça fait quand même
une belle diagonale.
Voilà. On voit la présence des Chinois, très fort, hein, TCL, Honor, et là évidemment la vedette du salon, on en parlera, c'est un produit destiné à nos oreilles et à nos conversations, qui est un smartphone qui vient de Chine, Et puis, ce que l'on peut retenir également, c'est dans l'électroménager, on l'avait déjà perçu l'année dernière. Hein. On est sur un salon où on va essayer de faire des économies. Alors, des économies d'énergie, des produits recyclés, etc. Et là, on va peut-être voir un tournant où l'électroménager, alors quand je parle d'électroménager, ça peut être le four, ça peut être le lave-linge, ça peut être le frigidaire, enfin le réfrigérateur plutôt, parce que frigidaire est une marque, qui intègre de l'intelligence artificielle, du deep learning, à destination, non pas de complexifier l'utilisation, hein, toujours pareil, une tech invisible et transparente, qui va donner de la vraie valeur à l'utilisation du produit et une véritable intelligence avec la capacité d'apprendre sur nos goûts et nos habitudes pour pouvoir être encore plus performant. On reviendra peut-être là-dessus en parlant notamment d'un four qui vient de chez Haier. Voilà, c'est moi les grandes lignes que je retiens.
On en parlera effectivement, parce qu'il y a beaucoup à dire sur nous Français et les caméras intégrées dans nos fours. On sait quand même à un moment ou à un autre quand est-ce qu'on cuit nos légumes. Mais bon, ça, effectivement, c'est peut-être pas le cas de toutes les sociétés. Tu parlais de sustainable, tu parlais effectivement de connexion. Je retiens beaucoup alors de robots aspirateurs, d'intelligence qui ne se voit pas forcément et qui se ressentent, et une batterie incommensurable de batteries portatives, justement, avec des stations électriques portables et portatives visant à favoriser l'autonomie finalement de quelques week-ends ou tout simplement qu'on pourrait en avoir des problématiques sur le réseau électrique qui tendent à équiper les maisons ou les foyers de batteries pour prendre le relais du petit électroménager pendant les différentes coupures ou délestages qui sont des sujets qu'on peut avoir dans différents pays. Ça a failli nous arriver en France en début d'année. Il n'est pas effectivement exclu que dans d'autres pays cela puisse arriver, comme c'est le cas par exemple sur quelques pays comme l'Afrique du Sud. On a naturellement pas mal de sujets qui étaient présents et donc on va en faire le tour tout de suite. Tu parlais des éditions de l'édition 2023 en soulignant une forte présence des Chinois avec notamment du pliant. Alors c'est vrai que le pliant, beaucoup décrié, c'est génial, on en veut, mais en même temps on n'en achète pas parce qu'on pense que c'est fragile. C'est quoi le retour qu'on peut avoir aujourd'hui sur finalement les smartphones pliants?
Alors moi je trouve que sur les smartphones pliants, on avait découvert ensemble, c'était avant Covid hein, je crois, notamment à l'IFA de Berlin, on avait pu manipuler ou se faire manipuler sous les yeux le premier smartphone pliant que présentait Samsung. Là cette année, moi je trouve que sur ce type de produit, et pourtant, alors on va être peut-être méchant avec les Coréens et les entreprises du Sud-Est asiatique, mais on pourrait se dire tant qu'Apple n'adopte pas le smartphone pliant, ça veut dire que le smartphone pliant n'a pas aujourd'hui d'approbation massive pour pouvoir devenir un flagship. C'est toujours quelque chose qui, techniquement, est tout à fait intéressant, parce que c'est l'apogée ou l'aboutissement de toute la technologie d'écran flexible. Mais là, aujourd'hui, cette année, celui qui a pris la vedette, c'est un Chinois, Honor, hein, H-O-N-O-R, qui sort un smartphone pliant qui, une fois déplié, fait 4,7 mm d'épaisseur.
Donc, il est extrêmement fin.
Une fois replié, il fait 9,8, 9,9. À titre de comparaison, votre iPhone, il fait 7,8, on va dire, il fait 8 mm parce que vous lui mettez une petite coque. Donc, vous savez, 8 mm, ça c'est votre smartphone Apple, iPhone, et quand le Honor est déplié, il fait 4,7, il est beaucoup, beaucoup plus fin. Et justement, les technologies qui ont été employées au niveau de la charnière et au niveau de sa résistance permettent aujourd'hui d'avoir un produit qui soit véritablement utilisable. Maintenant, encore une fois, l'intérêt, oui, c'est l'intérêt d'avoir un écran plus grand, mais comme le smartphone, vous le sortez dans toutes les occasions, dans le métro, en salle de classe pour les étudiants, etc., etc., est-ce que vous avez envie de sortir quelque chose qui ressemble à une mini-tablette ou est-ce que vous voulez rester encore un petit peu discret avec quelque chose qui est un peu petit? Donc, ce produit s'appelle le Magic V, deuxième génération, donc Magic V2, qui a été présenté notamment en introduction de cette IFA de Berlin. Et au final, ils ont présenté en parallèle une sorte de concept qui s'appelle le Magic V Earth, qui est un téléphone portable pliant, mais dont la pliure se fait dans l'autre sens et qui extérieurement ressemble à un sac à main. Il imite le sac à main, vous pouvez le porter en bandoulière, etc. Alors là, bon, on est dans le domaine du fun, hein, bien sûr.
Je te le confirme.
C'est pas avec ça qu'ils vont casser la baraque en termes de quantité, mais en tout cas, on voit bien la force qu'a cette entreprise, qu'a cette marque pour proposer des produits qui viennent ravir, malgré tout, la vedette aux dernières versions du Galaxy Z Fold, etc., de chez Samsung, qui est toujours, évidemment, à l'IFA de Berlin, extrêmement présent, avec un énorme hall qui lui est entièrement dédié.
Et je ne sais pas quoi dire sur le V-Pure. Très honnêtement, c'est à... Je ne ferai pas de commentaire.
Non, mais c'est sympa, ça
chipe la vedette médiatique, mais dans l'intérêt fonctionnel. Alors, c'est vrai qu'on se demandait, et tu sais, rappelle-toi, en 2014 ou 2015, on se posait toujours la question, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire des écrans pliants? Quels sont les cas d'usage qu'on va pouvoir développer? Est-ce qu'il y a des cas d'usage au travers du textile, de la détection via le textile connecté, des problématiques de santé, de rythme cardiaque, qui pourraient dire, bah, effectivement, guider quelqu'un en cas d'AVC. Enfin, on pourrait imaginer plein de cas d'usage. J'avoue que le côté sac à main portatif, il y a très certainement beaucoup de verrous à aller chercher dans le pliage, dans le ressenti de la matière, dans plein d'éléments, mais qui font qu'effectivement, en l'état, c'est plutôt un concept à propulser. Pour travailler son positionnement média sur des sujets un peu ambitieux, que effectivement un produit qui trouvera une adoption massive du public, comme tu l'as souligné. Est-ce qu'ils sont dans les montres, nos amis Honor également? Je pense que oui.
Oui, en fait, ça fait une transition magnifique parce que des montres, on va pouvoir en parler. Hein. Toi,
c'est
tu aimes bien
si on n'avait pas écrit le script. Non.
Toi, ta Garmin, tu adores. Il y a une marque française, évidemment. Qui a sorti deux modèles pour l'IFA, mais c'est vrai que Honor pour l'IFA a aussi annoncé une nouvelle montre connectée. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans les prix de l'Apple Watch et encore moins de l'Apple Watch Ultra, dont la prochaine génération sera probablement annoncée le 12 septembre lors de la keynote Apple, mais ils ont sorti une montre avec son suivi GPS pour 150€. Enfin, en tout cas, ça c'est la promesse. Mais en termes de montre, je pense que notre regard peut se tourner vers cette société qui a été française, qui fut suédoise par Nokia, je crois que Nokia c'est suédois, hein, c'est ça,
oui.
Et puis qui est revenue française par le charme du rachat par son propre fondateur, et qui est WeThings, et qui sort deux nouveaux modèles de smartwatch, notamment avec des capteurs de température. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi
bah
qui
oui,
fais beaucoup de...
Les capteurs de température, la bête noire du RGPD, c'est à quel moment est-ce que les données de santé sont suffisamment ou trop précises? Tu soulignais effectivement WeThings avec ce ScanWatch 2 et ce ScanWatch Lite, qui sont les capteurs de température et d'analyse qui sont effectivement assez utiles, alors pour la COVID bien entendu, mais aussi dans l'analyse d'un effectivement... D'une détection potentielle d'un problème quelconque, ou de la température quand on fait du sport, ou des choses comme ça. On voit bien que la température est centrale dans l'analyse d'un diagnostic. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, on pourrait toujours se poser la question de la pertinence, de la fiabilité, de l'information, de tout. Mais quand on regarde effectivement ce que fait Apple, puisqu'ils le font déjà au niveau de l'Apple Watch, mais ils ne communiquent pas sur le chiffre réel, bien qu'a priori, et je n'ai pas été chercher l'information, hein, on puisse avoir finalement cet indicateur directement disponible en cherchant bien dans tous les paramètres de son iPhone. Bon, on s'aperçoit que la température, elle est centrale. Alors, se pose la question de la validation de l'information, de la communication, pour pas que ce soit perçu comme un diagnostic médical. Ça, c'est le sujet qui est traité au niveau de la FDA et des différents organismes qui vont certifier les éléments. Se pose donc cette question, mais on voit bien que voilà, le capteur de température devient un peu central, affiché. En tout cas, ça fait partie des innovations. La prochaine en date, en tout cas celle qui a été communiquée par... notamment un brevet qui a été déposé, si je ne me trompe pas, ou un début de dépôt de brevet en 2023 par Apple, qui était le sujet de la pression artérielle. directement accessible depuis sa montre. Donc là, si on commence à avoir effectivement une estimation de sa pression, ça pourrait être, enfin de sa tension, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc ça, en tout cas, ce sont des éléments quand on voit que l'hypertension est un tueur lent. Effectivement, il y a effectivement dans les dispositifs de santé, les dispositifs médicaux connectés, beaucoup à faire sur ce sujet. Mais WeSings a effectivement fait beaucoup parler d'eux sur ce capteur de température. Tu soulignais tout à l'heure Garmin, parce qu'on va peut-être terminer par Garmin dans ces cas-là sur cette partie-là. Effectivement, ils sont arrivés. Alors, pourquoi est-ce qu'on les aime bien, Garmin ? Premièrement, moi, je te pose la question. Moi, j'en ai une. Alors, j'ai eu l'Apple Watch. Pourquoi je ne l'utilise pas ? Parce qu'en fait, au bout d'une journée, j'ai plus de batterie et que je ne pense jamais à la recharger pendant 20 minutes, premièrement. Bien que toi, tu l'aies et toi, tu arrives à rentrer dans ce cycle. Mais après, sur le sport en général, c'est vrai que Garmin, en tout cas, sur le suivi de la performance, je trouve, est plus pertinent. Alors, c'est peut-être aussi une idée reçue, mais en tout cas, quand tu peux rentrer tes entraînements plus facilement dans Garmin Connect, bah, c'est plus facile. Et puis, en même temps, Garmin, ça dure un peu plus longtemps en termes de batterie. Et quand tu fais une épreuve qui va durer 6 ou 8 heures d'affilée, tu as plutôt envie d'être sûr que ton matériel il tienne la route sur la longueur. Voilà, c'est à peu près pour ça.
Bah, en fait, sur les montres connectées, on a deux concepts. On a le concept Garmin, on a en parallèle un concept comme WeSings. Alors Garmin, on est sur le sport, WeSings, on est sur la santé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se focalise sur des fonctions dont le périmètre est moins étendu, on peut se permettre d'avoir des montres dont la batterie est moins sollicitée. Moi, j'ai un collègue qui me disait « ma WeSings, c'est super, je la recharge que toutes les semaines ou tous les 10 jours ». Alors que moi, même avec une Apple Watch Ultra, qui a une batterie vraiment costaud, bon, bah, on peut se permettre de la garder au poignet pendant, allez, on va dire 48 heures. Hein, si on ne sollicite pas super trop les fonctions GPS, ça reste plutôt confortable. Mais moi, je donne un cas d'usage qui est très simple. C'est un parcours de golf. Un parcours de golf, ça fait à peu près 4 heures. Vous avez un GPS qui est ultra sollicité parce qu'en permanence, on vous donne votre position. Eh bien, les Apple Watch, que ce soit la 7, la 8, au bout de 10-14 trous, vous n'avez plus d'Apple Watch. C'est terminé, au revoir et merci. Là, avec l'Ultra, c'était un petit peu différent. Et ça, c'était la montre de l'année dernière. On verra la deuxième version cette année. Ce qui était tout à fait étonnant chez Apple, et ce que l'on peut justement mieux retrouver chez WeSings ou chez Garmin, en fonction des situations que l'on souhaite tester, c'est que quand tu as des analyseurs, notamment de sommeil, il faut que tu aies ta montre au poignet pour analyser ton sommeil. Si c'est le moment où tu la recharges, ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai que l'Apple Watch était quand même génial. Tu avais ta montre toute la journée. Le soir, tu la chargeais, tu allais dormir. Donc, tu ne pouvais pas analyser ton sommeil. Bon, un peu embêtant. Par contre, à côté de ça, c'est vrai que ce n'est pas le même concept. Hein. D'un côté, on a une montre où vous avez un smartphone au poignet. Et de l'autre côté, on a des montres plus dédiées avec un périmètre de fonctionnalité plus restreint, mais justement qui gagne en autonomie. Et ça, c'est un choix que l'on fait délibérément en fonction de ce que l'on a besoin d'avoir comme information.
À quand l'handicap de golf, ou l'index de golf, je ne me rappelle plus quelle est la dernière terminologie qui a été choisie, basée sur la résistance de la batterie de l'Apple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu termineras avec de la batterie, c'est que tu auras fait un bon score.
Ouais, c'est ça.
Donc en tout cas, Garmin est venu avec les smartwatches. La venue 3S et la venue 3 qui sont effectivement au-delà d'être sur un design ultra soigné comparé à d'autres montres de la même gamme apportent ces nouvelles fonctionnalités comme le coaching du sommeil qui est amélioré alors qu'avec des conseils qui viennent le lendemain, l'ajout du haut-parleur, du microphone pour la venue 3 et qui ajoute toutes ces fonctionnalités, notamment le vocal. Voilà, et puis pour suivi, effectivement, la captation d'informations. Garmin, on les aime bien pour ça, mais ils sont à peu près tous au même niveau. Alors, en même temps, on a parlé de la montre, on a parlé de la santé, il se passe aussi beaucoup de choses dans la maison avec un développement de Philips un peu particulier, puisque plus fermé que d'habitude autour de la maison, plus encore de la sécurité de la maison.
Alors, on fera un petit coucou à notre camarade Thibaut qui se reconnaîtra. Mais tout le monde connaît Philips pour ses Philips Hue et son écosystème assez agnostique qui est compatible avec l'écosystème d'Amazon, l'écosystème d'Apple, etc. Et bien là, Philips se lance dans la sécurité. Alors la sécurité, attention, la sécurité de la maison, c'est une caméra connectée dans l'écosystème des lampes Et là, on peut imaginer tout un tas de cas d'usage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir surveiller évidemment votre maison avec les capteurs de la caméra, voir si éventuellement il y a une intrusion, et évidemment programmer, voire piloter à distance l'éclairage. Alors vous imaginez, il y a quelqu'un qui se présente dans votre maison, qui essaye de forcer la porte, et vous, bah, d'un seul coup, vous allumez toutes les lumières. Hein, donc c'est pour ça qu'on salue Thibault, vous allumez toutes les lumières de votre maison, du rez-de-chaussée au dernier étage, et vous faites tout ça clignoter en rouge. Donc voilà, bon, attention, hein, c'est un petit peu comme les systèmes qui sont connus avec Apple pour la gestion de ces appareils connectés, qui sont les Nest. Si vous voulez conserver les images, si vous voulez avoir un certain nombre de fonctionnalités, il faudra payer un petit abonnement. Mais si vous voulez simplement être alerté et pouvoir regarder en direct ce qui se passe, éventuellement interagir avec votre système lumineux, eh bien, ça vous coûtera simplement que le prix de la caméra, qui, je crois, est relativement light. On est autour des 150-200 euros.
Voilà, mais bon, encore un abonnement dans le cloud à prévoir. Et ça, effectivement, les modèles économiques de ce type, on n'en a pas fini. Ce qui est un peu particulier quand même, tu l'as souligné, c'est le fait de s'enfermer dans un protocole et de ne pas forcément l'ouvrir. C'est assez rare pour finalement Philips, qui nous avait quand même habitués historiquement à être interopérable ou agnostique, si on préfère, du point de vue des réseaux. Voilà. Écoute, affaire à suivre, on verra si effectivement ils trouvent leur marché en concurrence très directe d'Orange, des opérateurs téléphoniques ou de différents objets connectés de la maison dont tu es également équipé, cher Lionel. Sur la partie effectivement des ordinateurs ou des consoles, on n'était pas en reste avec cette nouvelle console de jeu, enfin la console de jeu Legion Go qui arrive, qui est une console plutôt PC portable, qui ressemblerait d'ailleurs hein, à une forme de Switch boostée, form factor de Switch, voilà, c'est ce que reprenaient souvent les médias, alors avec une autonomie d'1h30, donc moi je pense que c'est très bien pour les enfants, parce que globalement la Switch ça peut durer une journée, 1h30 de Pokémon, c'est cramé, t'as plus personne, et là bah, tout le monde est content, les parents également, ça peut être pas mal, disponible en octobre, avec c'est Lenovo Glass ou Glacis, qui sont effectivement les lunettes pour accompagner cet objet. Alors on avait essayé des lunettes hein, l'année dernière, c'était un petit peu moins le cas cette année, et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, en tout cas sur les écrans déportés au travers des lunettes, c'est quelque chose qui est très intéressant et peut-être même très séduisant sur le long terme. Alors, au niveau de l'interopérabilité et de la voix, il y a encore beaucoup de choses qui sont sorties, puisque ce consortium qui avait été présenté il y a quelques temps entre Apple, Google, Amazon pour travailler sous le même langage, qu'on dise OK Google, Hello Siri, compagnie, etc. Il y a effectivement JBL qui a sorti son enceinte. Alors, ça n'est pas sans nous rappeler le sujet Matter, hein, dont on a parlé effectivement l'année dernière au CES et également en 2022, si je ne me trompe pas, on avait déjà quelques embryons. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de JBL Multiroom, qui est cette nouvelle enceinte?
Alors, JBL, bon, sont très connus, hein, c'est JBL, Armand Cardon, des spécialistes du son. On se rappellera qu'ils ont quand même été rachetés par Samsung. Bon, voilà, mais ils restent sous leur marque emblématique. Ils sortent des enceintes néo-rétro, plutôt sympa.
Oui, c'est vrai que le design est assez sympa. Et filaire.
Filaire, mais aussi Bluetooth, hein, on fait un peu de tout, c'est un peu polyvalent, mais surtout, c'est vrai que ces enceintes, via ce consortium Apple, Google, Amazon, qui est le Voice Interability Initiative, eh bien, on va pouvoir choisir comment on réveille l'enceinte. Alors, on la réveille avec le mot-clé, le Wake Up Word, Hello quelque chose, Siri, comme tu l'as dit. Mais par contre, une fois qu'on l'a réveillé, on peut interopérer dans tous les univers, que ce soit les univers d'Amazon, les univers de Google ou les univers d'Apple. C'est-à-dire que c'est un mot pour entrer dans n'importe quel univers. Ça vous évitera demain d'avoir un Apple Assistant, enfin un HomePod, un Google Assistant et puis une enceinte connectée de chez Amazon. Là, vous avez tout directement sur cette enceinte. Alors il y a, sont pas les seuls, hein, les enceintes Sonos qui sont évidemment les rois du multi-room, Celle-ci est aussi compatible avec le multi-room, mais on sait très bien que dans un certain nombre d'enceintes Sonos, comme les Sonos One depuis très longtemps, on a un micro qui permet à l'enceinte, puisqu'elle est connectée, d'aller solliciter notamment Amazon, puisque elles sont compatibles, en tout cas les miennes, elles sont compatibles depuis déjà très longtemps avec l'assistant vocal d'Amazon. Mais là, on a quelque chose qui est à la fois un produit d'un spécialiste du son, avec le form factor et le look and feel qui est une vraie enceinte néo-rétro, et puis la souplesse de l'utilisation des différents écosystèmes que sont les grands écosystèmes de ces trois gros titans du numérique et et de l'assistant vocal.
À suivre sur l'adoption, mais c'est vrai qu'on en parlait, hein, cette connexion diffuse au travers de la maison pour s'affranchir des barrières et des protocoles, ça c'est un vrai sujet de fond qu'on croise depuis tellement longtemps sur les grands salons qu'aujourd'hui ils prennent finalement une dimension, ils se tangibilisent, et ça c'est quelque chose qui est appréciable surtout pour l'utilisateur. Alors bon, bien que l'interaction sur la voix, on pourra d'ailleurs en faire un épisode. Est-ce ou pas utile ou pertinent à la maison ? Et pourquoi ? On s'aperçoit que le nombre de requêtes peut être très limité entre action-réaction ou véritable discussion. Les sujets n'ont pas manqué aussi autour de l'électroménager, entre les différents lave-linges, sèche-linges connectés. On a pu voir effectivement l'optimisation de l'eau, du cycle de lavage, du travail sur les températures, le fait effectivement d'avoir le minimum de matière entrante ou d'énergie consommée, ces télés qui sont optimisées en termes de consommation énergétique, la télé transparente de chez Thomson, effectivement, qui est quasi passée inaperçue dans les médias. On a effectivement de l'électroménager quasiment partout. Je dirais que c'est presque l'ADN de l'IFA de Berlin, au même titre que la télé et les enceintes sont au CES, et c'est à peu près ça qu'on a pu voir. Là où avant on nous parlait beaucoup d'intelligence artificielle pour optimiser les ressources énergétiques et consorts dans ces électroménagers, là on parle aujourd'hui de plus en plus de connexions, parce que finalement ce côté optimisation de la matière, de l'eau, des cycles de lavage et compagnie, c'est quasiment un problème révolu finalement.
Complètement, disons qu'on est passé à un autre stade, et encore un autre stade qui a été illustré par ce que présentait la société chinoise Haier, je prononce bien H-A-I-E-R. Ils ont sorti un four qu'ils ont tout simplement appelé le Bionic Cook. Hein, voilà, ça c'est pour ceux qui regardaient un homme qui valait 3 milliards, hein, traduction française. Et bien maintenant, on est carrément dans la cuisine. Alors, l'idée... alors, on avait vu hein, des caméras dans les frigos pour détecter les aliments, etc. Et bon. Là, l'idée, c'est que votre four, équipé d'une caméra intérieure, va détecter, grâce à l'analyse de l'image de sa caméra, le type d'aliment que vous avez mis à l'intérieur du four. Il va vous préconiser la cuisson. Alors ça, jusque-là, ils ne sont pas les seuls à le faire. Par contre, il va suivre la cuisson. Et en fonction de vos goûts, par machine learning, il va, par exemple, vous aimez la pizza un peu plus croustillante, un peu plus cuite, etc. Eh bien, au bout de deux ou trois cuissons, eh bien, quand vous mettrez une pizza dans votre four, il la cuira selon vous. Mmh. Voilà. Alors, encore une fois, hein, comme tu le disais, tu es quand même capable, tu as des yeux de regarder ce qui se passe à travers ton four. Puis comme de toute façon, ce n'est pas un robot qui met la pizza à l'intérieur du four, tu dois être présent dans la maison et ne pas être très très loin du four. Mais pendant ce temps-là, tu peux faire autre chose. Tu peux enregistrer un épisode sur une chaîne de podcast et puis être embarqué par ton discours et finalement laisser cramer ta pizza dans le four. Et bien avec lui, ça ne se produira plus. On est là dans l'intégration d'une intelligence artificielle sur un produit du quotidien pour te faciliter le quotidien avec la transparence qu'il faut pour que l'utilisateur ne soit pas perturbé avec des tas de boutons de réglage. Non, non, easy et tout à fait user-friendly.
Je reste toujours dubitatif sur la capacité d'une IA à savoir cuisiner. Il y a un moment, on sait tous cuire des pâtes. Et faire un bœuf bourguignon, ça n'enlève pas quand même d'une très grande complexité. Bon, je... Voilà. Alors, effectivement... Bon, affaire à suivre. Je ne suis toujours pas convaincu de la véritable valeur dont on pourra... que l'on pourra tirer de ce type d'installation, bien que la reconnaissance des aliments, le suivi fondamentalement de la cuisson sont des éléments sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue recherche. Après, je suis moins convaincu dans le cas d'usage fini. C'est comme le robot qui prépare le café, ça ira toujours plus vite qu'on se le fasse soi-même. Mais bon.
Oui, mais ça fait 10 ans qu'on voit des frigos connectés avec des écrans. Personne ne s'équipe de ce genre d'appareil. Il y a un an, on voyait le frigo avec la caméra dedans pour pouvoir détecter les aliments et éventuellement mémoriser les aliments qui sont là depuis un peu trop longtemps. Mais évidemment, comme il n'y a pas de données pour savoir quelle est la date de péremption, ce n'est pas forcément très utile. Là, on a quelque chose qui, bon, maintenant, encore une fois, hein, l'adoption, le prix, ça dépendra. Bon. Mais pourquoi pas.
À voir. Moi, en tout cas, j'attends.
On parlera peut-être d'automobile pour finir, faire une petite capsule, puisque ça introduit le salon de Munich qui ouvre ses portes, enfin qui ouvre ses portes hier pour la presse et qui ouvre ses portes aujourd'hui. Mais très franchement, ça fait partie des dispositifs que l'on utilise au quotidien et qui, avec l'adjonction de l'informatique, deviennent des dispositifs informatiques neutres, très transparents, et qui sont censés nous faciliter la vie. Pas nous amener des fonctionnalités spécialement en plus, simplement nous faciliter la vie. Et on verra avec les voitures qui sont devenues des assistants de conduite de plus en plus performants, eh bien, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de Français, parce que c'était très particulier en France, on aimait bien avoir des voitures avec des boîtes de vitesse mécanique, faire vroom vroom, changer les vitesses, passer le col de je ne sais quoi, parce qu'on a des montagnes sur notre pays, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, avec des voitures qui sont massivement avec des boîtes automatiques, on a un suivi et une aide à la conduite massive, et tout ça se fait dans une relative transparence et progresse tout doucement sur le marché et à suivre. En tout cas, à suivre pour la cuisine, notamment avec Ayer et son Bionic Cook.
Bon, c'est vrai qu'en tout cas, ils ont fait beaucoup parler d'eux et c'est toujours effectivement bien de voir toutes ces avancées. Quoiqu'une caméra hyperspectrale qui permet de voir la cuisson des gâteaux sans même avoir à l'ouvrir, là, effectivement, ce sera intéressant, notamment pour la cuisson du pain. Mais bon, on pourrait revenir sur toutes ces recettes. Bien entendu, on a parlé de télé. Tu as parlé tout à l'heure d'une télé 98 pouces, toujours plus lumineux, avec la moyenne des ventes qui dépasse les écrans 50 pouces et naturellement aussi des projecteurs ultra courte focale jusqu'à 8K qui sont de plus en plus présents sur le marché. Toi, tu voulais nous parler peut-être aussi des vidéoprojecteurs laser avec 3 lasers trichroma. Mais qu'est-ce que ça, Lionel ?
Alors, en fait, on a vu sortir des vidéoprojecteurs laser avec un système de miroir qui permettait de décomposer la lumière en spectre fondamental, un rouge, vert, bleu. Et donc, on n'avait qu'un seul laser. Et là, on a vu apparaître des vidéoprojecteurs où on a directement les 3 lasers. On n'a plus besoin de décomposer le rayon laser pour pouvoir former l'image. On a 3 lasers qui, eux, sont sur les couleurs fondamentales. Donc, on va avoir, une puissance, 2, une précision pour une image qui sera encore mieux définie. Et donc voilà le genre de choses que l'on voit. Très franchement, c'est pas mon secteur et je suis pas allé leur demander le prix. Mais ce qui est intéressant, c'est, comme tu l'as précité, des vidéoprojecteurs ultra courte focale que vous pouvez placer quasiment devant votre mur pour pouvoir projeter sur votre mur, associé ou non avec un écran de projection parce que la focale est fixe en termes de. Le dimensionnement de l'écran est fixe par rapport à la position de votre vidéoprojecteur. Ce vidéoprojecteur trichroma avec du laser pour de la puissance, et on sait très bien qu'on fait parfois des vidéoprojections dans des salles ou dans des pièces qui sont éclairées en pleine journée, et pas forcément pour faire une ambiance cinéma et on ferme les volets ou on fait ça la nuit. Et puis dans le domaine des vidéoprojecteurs, il faut absolument citer la sortie du Freestyle 2 de chez Samsung, donc ce petit vidéoprojecteur qui ressemble à une grosse boîte de conserve et qui nous permet de l'orienter. eh bien, ce nouveau modèle permet l'association de deux modèles. Alors, évidemment, ça vous coûtera deux fois plus cher parce qu'il faudra en acheter deux, mais en associant les deux, donc ce freestyle de deuxième génération, en les mettant côte à côte, eh bien, on a la capacité d'afficher une image plus grande avec beaucoup de souplesse en 21 neuvième. Donc voilà, dans le domaine des vidéoprojecteurs, ce que l'on pouvait dire très rapidement, bien sûr, parce que, encore une fois, on est sur un salon électronique dans le pur, dans la pure tradition, avec tous ces appareils électroniques dont les téléprojecteurs et appareils électroménagers. On n'a pas parlé de une société que j'aime bien qui s'appelle Urbanista, qui fait notamment des écouteurs, des enceintes, des casques. Eh bien, ils ont intégré tout un système de recharge qui peut s'opérer avec la lumière du jour comme la lumière intérieure, ce qui fait que vos enceintes, vos casques, vos écouteurs, ils se déchargent jamais. C'est-à-dire que la lumière produit assez d'énergie pour que même avec une utilisation quasi permanente, vous n'ayez pas besoin de le recharger, puisque le gain en énergie est supérieur à la dépense énergétique en cours d'utilisation. C'est plutôt sympa. Et très honnêtement, en termes de look, ils sont tout à fait bien, notamment les écouteurs, enfin notamment les casques, hein, où vous avez le capteur photovoltaïque qui se trouve sur l'arceau qui est au-dessus de votre tête. Donc c'est plutôt assez discret et c'est assez efficace.
Bah, j'y passerai peut-être, parce que moi je suis toujours au fil air, parce que j'ai toujours des AirPods, mais jamais rechargés. En fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je les charge uniquement dans l'avion, pour que ça masque le bruit, mais le reste, j'y arrive vraiment pas. Si on termine par les télés, les projecteurs, en tout cas, gros coup de cœur quand même, pour l'Intercom 2000 de la télé, c'est-à-dire cette magnifique télé LG 27 pouces qui est embarquée, qui est transportable dans une valise, et vous l'ouvrez comme James Bond. L'écran sort, il est manipulable, etc. Et globalement, vous avez entre 1000 et 1200 euros, cette télé 27 pouces est à vous, en mode vous rajoutez une valise. Voilà. Bon, pareil, encore une fois, c'est sympa, c'est mignon, c'est fait en matériaux recyclables, c'est tout ce qu'on veut, ça se transporte, mais la télé transportable a-t-elle véritablement de l'avenir ? Là, peut-être dans les applications professionnelles, ça, effectivement, il y aura peut-être des sujets, mais dans l'application perso, reste à voir. Voilà, c'est aussi ça la magie de l'IFA de Berlin, c'est de voir des produits que nous n'achèterions pas spontanément. Voilà.
Attention,
qu'ils soient jolis.
La mode de l'attaché case, c'est terminé. Transporter sa télé dans une petite valise, je pense qu'on est revenu à la National 7 et aux années 60.
Hein, oui, voilà. Mais c'était génial ce moment où tu sortais ta valise de ton, tu sais, d'entre les deux sièges avant avec l'Intercom 2000, où tu décrochais et tu faisais ta musculation en même temps. C'était fantastique. Voilà, ce moment où la Renault 25 Chama d'intérieur cuir servait encore à quelque chose. Voilà. Et à la boîte de vitesse 5 vitesses turbo diesel. Et c'était la classe. Voilà, c'était une époque révolue, proche de celle du bebop. On se demandait déjà à l'époque ce qu'on allait pouvoir foutre d'un téléphone. L'avenir nous a montré effectivement bien des choses. On a parlé de tout, on termine peut-être par un focus autour de la voiture, puisque Tesla s'est fait remarquer en ouverture de l'IFA de Berlin avec le restylage de la Model 3, un peu plus longue, plus difficile à garer, 5 cm. Ça, c'est plutôt pour ceux qui ne savent pas conduire, un nouvel intérieur, et puis plus de 50 km d'autonomie pour les pousser aux alentours de 650-700 km d'autonomie. Ça, c'est un vrai sujet quand même, l'autonomie, parce qu'on nous dit souvent que c'est des sujets d'infrastructure, il va falloir recharger plus vite, mais on ne va pas doubler, tripler ou quadrupler le nombre de prises électriques qui sont disponibles sur les bornes. Et aujourd'hui, quand on fait 500, 600, 700 km, et qu'on roule de nuit, on n'a peut-être pas, par exemple, envie de s'arrêter une demi-heure pour recharger sa voiture. Donc, il y a quand même de l'usage qui fait que la pompe à essence reste, quoi qu'on en dise, une des solutions les plus rapides pour voyager. Alors, bien sûr, l'habitacle change, puisqu'il y a des écrans qui sont intégrés à l'arrière, des nouveaux systèmes, un nouveau système sonore, une nouvelle technologie de batterie éligible au super bonus français. Enfin, bon, bref, il y a effectivement tout ce qui peut nous plaire sur la Tesla, mais on voit bien effectivement la résistance, bien que tout le monde veuille y aller au changement, face à l'usage simplement de ce nouveau type de véhicule au long cours et dans l'année.
Ils fêtent quand même leurs 2 millions d'exemplaires vendus de cette modèle 3. Toi comme moi, on n'est pas spécialement des fanatiques des voitures électriques. Moi, je pense qu'on est un peu rapide en besogne pour abandonner le thermique. Il y a beaucoup de choses à faire sur les problématiques de pollution que simplement de se dire on va tous passer à l'électricité, sachant que l'électricité, on sait que selon la façon dont on la produit, évidemment, on a simplement déplacé les émissions. Et comme le CO2 est mondial, puisqu'il se dégage dans l'atmosphère, à part un peu moins polluer les centres urbains, qui de toute façon se mettent au vélo de plus en plus avec une réduction de l'espace dédié à la voiture, on se rend bien compte que la voiture électrique, ce qu'un commentateur disait il n'y a pas longtemps et qu'on relèvera peut-être si on veut faire un épisode sur le salon de Munich, c'est que la voiture électrique que l'on pouvait imaginer être la petite smart spécialisée pour le citadin qui va pouvoir faire ses petits trajets, etc., etc., en fait, le citadin, il a des milliers de systèmes possibles. Il peut prendre un Uber, il peut prendre un vélo en free-floating, il peut prendre les transports en commun, les métros, les bus, etc. En fait, il n'a pas besoin de voiture. Par contre, celui qui habite en région, celui qui est à 15 km de son travail, qui habite une maison, petite ferme, etc., qui va pouvoir la recharger chez lui, de toute façon, c'est pour lui la voiture électrique. Sauf que la voiture électrique, elle est un peu chère. Et là, pour le coup, c'est vrai que Tesla, en introduction de l'IFA, fait cette annonce par un simple mail, mais en fait, en avance de phase sur le salon de Munich, annonce une voiture qui reste relativement peu chère et qui finit par de plus en plus ressembler à une Model S, qui est leur modèle plus haut de gamme en termes de voiture berline. Hein, on ne parle pas de leur super SUV, Cybertruck, etc., des trucs un peu délirants. On va quand même préciser un petit truc, c'est que cette voiture qui est présentée au salon de Munich ne sera pas fabriquée en Allemagne. Elle restera fabriquée en Chine.
C'est vrai.
Voilà.
C'est un fait souligné, c'est important à souligner. Effectivement.
Voilà. Et que nous, on peut être les pros de la voiture électrique par le biais de Renault avec sa Renault Zoé qui s'est beaucoup vendue, avec sa Dacia Spring qui est une boîte à concert sur roulette pour monter dans l'une. Donc c'est à minima, mais enfin le prix est évidemment extrêmement serré, mais c'est toujours fabriqué en Chine. Aïe, aïe, aïe. La réindustrialisation,
il faudrait
peut-être qu'on produise un peu plus en Europe. En tout cas, les Européens, ils ont du souci à se faire hein, sur les directives à prendre pour que les industriels puissent offrir des produits adoptables fabriqués sur le sol européen.
Ouais. L'IFA 2023, 1800 exposants, près de 250 000 visiteurs, des sujets clés, comme nous les avons soulignés, puisque nous avons parlé pas mal d'innovations que nous avons pu voir. Mais durabilité, réparabilité, problématiques autour de l'économie d'énergie, utilisation des matériaux recyclés, transportabilité, robots, on en a vu, hein, entre IDBox et ses robots Transformers, ou Unitri et ses robots de développement pour concurrencer, puisqu'il s'agit de la version chinoise de Boston Dynamics, et donc là, naturellement, plus accessible et très ouvert au niveau du dev et des fonctionnalités qu'on peut y développer. Très grosse conférence, l'IFA a-t-il répondu à ses promesses? La réponse, en tout cas, est oui. Il y a eu également une forte présence française. D'ailleurs, dans cette présence française, Lionel, quel a été ton coup de cœur pour terminer cet épisode?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de coup de cœur, parce que certains diraient WTF, bienvenue. C'est une start-up française qui s'appelle Lizia, L-I-Z-I-A, et qui a imaginé un dispositif qui vous permettra de lire un livre d'une seule main. Alors vous allez me dire, lire un livre d'une seule main, c'est facile, hein, vous coincez le pouce dans le milieu du livre et puis vous tenez le livre avec les quatre autres doigts. Ça peut se faire très bien, Sauf que bah, si le livre est un peu épais, etc., vous avez du mal avec le pouce de pouvoir l'écarter suffisamment pour pouvoir lire en tout confort. Eh bien, eux, ils ont imaginé un petit dispositif que vous mettez au bout de votre pouce, qui est allongé à droite et à gauche comme une petite, comme deux petites ailes d'avion, et qui vont venir, ces deux petites ailes, aplatir correctement le livre pour qu'il s'ouvre correctement.
C'est donc une technologie redoutable.
Ah ouais, c'est haute technologie, hein, on est d'accord. Donc, on va pouvoir lire d'une seule main. Ça, c'est la première fonctionnalité. Mais attention, ce dispositif n'en a pas qu'une. Il a une deuxième fonctionnalité qui, sur le petit dispositif que vous pouvez mettre à la hauteur de votre pouce, il y a une petite LED qui va pouvoir éclairer pour ceux qui aiment lire le soir dans leur lit ou les enfants qui aiment réviser leurs devoirs en pleine nuit.
Bien sûr.
Et puis, évidemment, il ne s'arrête pas là. Il y a une troisième fonctionnalité. C'est la capacité, puisque ces deux petites ailes de chaque côté ne sont en fait qu'une tige qui peut coulisser dans le dispositif que vous mettez à la hauteur de votre pouce. Et donc, en mettant ce dispositif en haut et puis cette tirette vers le bas, eh bien, il peut servir de marque-page. Ah, voilà, un dispositif 3 en 1. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, ça fera le bonheur de tous les cadeaux d'entreprise marqué au logo, je ne sais pas, de Capgemini, Total Energy, MG et compagnie, et que vous allez recevoir peut-être à Noël en disant « Ah, voilà un truc original !» Et pendant une saison, vous aurez des tas de gens qui auront des marque-pages avec ce type de dispositif qui pourront éclairer. Bon, c'est marrant.
Je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus tech-orienté. On les avait vus au CES 2020. Si je ne me trompe pas, ils étaient partis et embarqués dans la délégation de Mines Télécom, notamment pour aller chercher effectivement des prix. Ils s'appellent Energy Square, donc on les a connus, ils étaient encore dans les travaux de recherche quelques années maintenant. Ils arrivent pour présenter sur l'IFA de Berlin leur Seamless Charging and Connectivity System, qui est ni plus ni moins qu'une capacité de venir charger par induction tout type d'appareils nécessitant d'être rechargés. C'est selon eux 97% plus efficace qu'un rechargement normal. Naturellement, on positionne n'importe où parce que vous mettez vos plaques et puis vous allez pouvoir poser n'importe quoi dessus. Donc on peut imaginer qu'effectivement sur votre table, votre plateau de travail de cuisine, vous allez pouvoir installer directement dessous ces chargeurs, vous poserez votre téléphone et puis vous n'aurez plus directement à brancher votre téléphone puisqu'il se rechargera en contact avec la matière. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que beaucoup aujourd'hui de solutions de nos amis, les cuisinistes, sont faites directement avec ce type de matériaux pour permettre de cuire directement et de poser la casserole n'importe où sur le plan de travail. En tout cas, on pourrait imaginer ce type de cas d'usage, bien que pour l'instant, il se contente de travailler autour de la recharge du matériel informatique, principalement avec des systèmes dans les classes ou des systèmes directement professionnels pour la maison. Et donc, en fait, ce qui est absolument intéressant, je trouve, c'est ce côté seamless, extrêmement fin, c'est de la deep tech pure. Et puis, moi, ce que j'adore surtout, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas, c'est une technologie diffuse. Voilà, nos amis d'Energy Square qui, plusieurs années après le CES, arrive à l'IFA pour terminer ce cycle de veille nous concernant avec un produit finalisé ready to go. Voilà, que j'ai trouvé c'est intéressant. Bon, est-ce qu'il y a eu grande chose magnifique et absolument exceptionnelle sur l'IFA, Lionel?
Non, mais c'est... Alors bien sûr, on va revenir sur l'annonce de Honor, etc. Donc on a toujours quelques sociétés qui arrivent avec un produit qui n'était pas forcément attendu, qui casse un peu les codes, qui surprend, mais c'est pas complètement le rôle de l'IFA. C'est vrai que l'IFA, comme tu l'as précisé dès le début, c'est du go-to-market, donc ce sont des produits que l'on a souvent déjà vus, un écran transparent, un écran déroulable, etc. Certains que l'on a vus avant, que l'on ne voit jamais à l'IFA parce qu'on se rend compte, enfin en tout cas, les industriels se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une volonté d'adoption massive à minima sur leurs produits pour que ce soit rentable de sortir en grande série. Donc, on a des produits qui sont plutôt destinés au marché, donc plutôt raisonnables. C'est un petit peu comme la différence quand on va dans un salon automobile et qu'on voit de ce magnifique prototype où l'histoire automobile en est regorgée. Vous avez le prototype de la Renault Trucmuche, de la Citroën machin, et puis vous voyez la véritable Renault Trucmuche ou la Citroën machin sortir 3, 4, 5 ans après. pas tout à fait la même voiture. Hein. On a dompté, assoupli, assagi et surtout rendu industrialisable le produit qui, souvent, à l'échelle du prototype, n'est pas véritablement industrialisable ou alors à des coûts qui feraient ressembler votre Renault à une Ferrari. Donc, ce n'est pas tout à fait. Eh bien, c'est ce qu'on voit à l'IFA aussi. Dans l'électronique, on a tout un tas de produits qui sont imaginés et présentés lors de salons qui sont antérieurs dans le cycle de vie d'un produit comme le CES par exemple, et puis qui seront pas forcément gardés en l'état dans le catalogue des entreprises qui sont présentes à l'IFA. Donc à l'IFA, on voit des choses que l'on va pouvoir acheter très très peu de prototypes, même si l'IFA Next, hein, qui est un peu le pendant léger de l'Eureka Park pour le CES, avec les différentes startups, à peu près 500, alors que du côté du CES, c'est plus de 1000. On voit bien que c'est vraiment un salon beaucoup plus pragmatique que l'on vous présente, c'est ce que l'on est capable, et c'est sur sur les produits sur lesquels nous croyons en tant qu'industriels. C'est ça la grande différence.
Bien voilà pour cette IFA 2023 qui marque le début de cette nouvelle saison 23-24 qui s'annonce pleine de rendez-vous. Qui dit rentrée dit aussi peut-être lecture de l'été. En tout cas, nous avons chacun lu nos petits livres et on voulait vous parler aujourd'hui de Step Back, qui a été écrit par Léa de Future Agency et qui, par ailleurs, au-delà d'être un recueil, différents interviews de différentes personnes qui ont été rencontrées au fur et à mesure de la création de Future Agency, Léa a écrit, consolidé l'ensemble de ses notes dans ce livre Step Back et elle nous raconte.
Oui, bonjour. Bonjour Léa, j'espère que tu vas bien. Alors, bien sûr, j'ai suivi la sortie de ce livre comme Mathieu. Je voulais te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, en tant qu'agence d'innovation, agence qui va organiser des shots d'inspiration sur les salons, sur ce que l'on peut en tirer. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce recueil ?
Alors, en fait, pour te raconter un peu la genèse, c'est que Ruben, mon associé, et moi, on a toujours pris l'habitude de rencontrer régulièrement des personnes inspirantes pour nous guider un peu dans l'aventure entrepreneuriale. Mais comme notre métier, c'est principalement d'organiser des learning expeditions, ben, on est amené à rencontrer toutes les semaines des gens très inspirants qui peuvent nous éclairer sur différents sujets. Et en fait, plus j'accumulais de rencontres, plus j'avais des petites notes à droite, à gauche sur mon ordi. Franchement, on rencontre environ une personne par semaine. Ça fait 6 ans maintenant qu'on a monté Future Agency. Donc, je commençais à avoir plein de notes sur mon ordi et moi j'avais ce besoin de me poser et de me dire ok, maintenant ça fait 6 ans que j'ai monté cette boîte, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui pourrait servir aux autres. Et du coup c'est un peu de là qu'est né Future Agency, d'avoir l'envie vraiment de digérer tout ce que j'avais appris.
Alors, c'est absolument passionnant puisque des rencontres tu en as fait beaucoup, tu as réussi à tout consolider. Comment tu as structuré finalement ce livre, quelles ont été la grande ligne ? Est-ce qu'il y en a une déjà, peut-être, pour commencer ?
Alors, en fait, ce qui est marrant dans Step Back, c'est j'écris un peu comme je parle, donc il y a un style très direct, et la diversité dont tu parles reflète la diversité de notre quotidien. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir du mal à trouver un fil rouge dans Step Back, mais c'est vraiment ça. En fait, chaque semaine, on rencontre des personnes différentes. Ça peut être un philosophe, ça peut être un commissaire aux comptes, ça peut être un conférencier professionnel, ça peut être un PDG d'une boîte. Et du coup, ces 10 rencontres que j'ai sélectionnées, c'est vraiment 10 personnes qui ont marqué la vie de Future Agency, qui nous ont permis de faire pivoter Future Agency. Et du coup, voilà, c'est un peu, on va dire qu'il y a un peu de tout. Donc, il y a un peu de tout pour faire plaisir à des managers, à des dirigeants, à des entrepreneurs comme moi.
Ce livre, évidemment, comme tu viens de nous l'expliquer, est absolument à lire quand on veut aller dans l'univers de la tech, parce que justement, hein, toutes ces rencontres illustrent des parcours et illustrent des façons de regarder, d'appréhender et d'imaginer le futur. Pourquoi cette préface de Pascal Desmurger, Léa ?
Alors, Déjà, j'ai eu la chance d'organiser une learning expedition il y a quelques années pour le comité exécutif de la MAIF sur les nouvelles technologies, en particulier sur le métavers. À l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. C'était vraiment les prémices. Et pour moi, c'est une des entreprises en France les plus innovantes, les plus matures. J'ai rarement rencontré un comité exécutif aussi alerte sur tout ce qui se passe sur les nouvelles technologies. Bien évidemment, déjà, ça a été un challenge pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des populations qui sont aussi aguerries sur tous les sujets tech. Donc, il a fallu aller un cran plus loin. Donc, déjà, j'étais très impressionnée par leurs connaissances et la facilité qu'ils ont de transformer leurs connaissances en projets très concrets pour la MAIF. Et du coup, ça a été comme une évidence pour moi parce que c'est un PDG que je suis depuis des années, que j'ai eu la chance de côtoyer lors d'une learning expedition. Et c'est quelqu'un qui pouvait montrer à quel point l'inspiration est importante. En fait, ce comité exécutif, tous les mois, ont une parenthèse pour eux pour s'informer de ce qui se passe au niveau de l'actualité, pour en discuter entre eux. Et c'est quelqu'un qui est profondément convaincu de la nécessité de l'inspiration au quotidien. Donc, il n'y avait pas meilleure personne pour moi pour m'aider à montrer à tout le monde à quel point l'inspiration était une évidence dans le quotidien de dirigeant ou de manager.
Eh bien, merci Léa pour ce témoignage qui vient conclure ce premier épisode de la rentrée pour Innovation and Prospective Talk. On pourrait le dire maintenant, le podcast qui avant tout met en avant les grands salons de la tech que nous visitons, Lionel et moi, et desquels nous pouvons extraire quelques substrats de tendances et de signaux faibles. Lionel, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. De quoi parlera-t-on ? Ce sera la surprise.
Ouais, exactement. Voilà. On parlera peut-être d'automobile, on parlera peut-être de voyage dans l'espace. En tout cas, c'est l'actualité de la semaine qui nous le dira.
Voilà, on vous rappelle le concept. Toute la semaine, on lit pas mal d'articles, on assure notre veille et on anime, Lionel et moi-même, de nos côtés respectifs, parfois même ensemble, de nombreuses conférences. Et puis, naturellement, nous mettons tout ça en exergue toutes les semaines sur Innovation and Prospective Talk. On vous souhaite à toutes et à tous bonne semaine. Et puis, on vous dit à très vite. C'était Lionel et Mathieu en direct de l'IFAD Berlin. Bye bye.